est heureux,
on est heureux,
on est heureux de vivre en France.
C'est vrai, c'est vrai.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, nous sommes le mercredi 9 octobre 2024, nous sommes en direct et c'est parti pour 1h30 de partage de livres, 1h30 jusqu'à 18h30 à écouter au fil des pages sur Radio Libertaire. Frédéric, Dominique, Francis et aujourd'hui notre invité Anne Steiner pour son livre « Le temps des révoltes » publié aux éditions L'Échappée. On aime bien cette maison d'édition. Fred, des annonces ?
Un peu plus tard.
Plus tard ? Ok. Bon, Fred est très coquet. Alors, bon, en plus de nous écouter, n'hésitez pas à nous écrire. Notre adresse postale, Librairie Publico, 145 rue Hamelot, Paris 11e. Et puis, le blog du groupe Commune de Paris. Il suffit de cliquer sur « Contact » sous la banderole dessinée par notre ami Tardy. Commençons cette émission, comme à l'accoutumée, avec un livre pour alimenter le débat. En effet, voici 50 ans. Le Portugal, subissant la plus vieille dictature d'Europe occidentale, vivait une révolution. Étonnamment, ce cinquantenaire fut quelque peu occulté en 2024. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on en ait beaucoup parlé. Élections européennes, crise des démocraties institutionnelles, bref, les médias ont brillé par un silence relatif. Je ne dis pas qu'elles se sont totalement tues, mais bon, c'était relatif. Pourtant, il s'agit je cite l'auteur du livre, du dernier soulèvement populaire en Europe, durant lequel se sont articulés démocratisation radicale et remise en cause du capitalisme. Il s'agit des propos d'Hugo Paleta, auteur de Découvrir la Révolution, des œillets, Portugal 1974-1975, paru aux éditions sociales en 2024. Nous avions déjà eu l'occasion de parler de cette maison d'édition et de parler de cette collection Découvrir. Alors, c'était sur la Commune de Paris. Et là, c'est Découvrir la Révolution des œillets. Alors, qui la connaît, cette révolution ? Qui s'en rappelle ? On est à quelques-uns quand même dans ce studio à avoir vécu les moments, mais il resterait l'image du 25 avril 1974, un putsch militaire qu'une population passive et reconnaissante, je cite toujours, aurait accueilli béatement avec des œillets, une initiative venue du mouvement des forces armées, le MFA. Bon, c'est pas faux, mais il faut souligner aussi les actions d'un peuple en lutte pour ses droits démocratiques fondamentaux et une vie libérée de la misère et de l'exploitation capitaliste. C'est l'intérêt de ce petit ouvrage synthétique, dense, comportant une grille d'analyse et des documents. J'aime bien cette notion de « on a une grille » et puis on a des documents, on a des interventions qui sont destinées à appuyer les propos de l'auteur et vous retrouverez des intervenants qui ont pesé indéniablement. Bon, c'est tout à fait intéressant. Et Hugo Paleta souhaite faire découvrir cette révolution aussi inattendue dans son déclenchement qu'imprévisible dans son développement. Fin de citation. Les initiatives populaires ont désarçonné la bourgeoisie, les militaires, les partis. Mais comment ? L'auteur reprend les principaux débats politiques en analysant les conquêtes, les modalités d'action, les limites. Il faut repartir dans l'histoire du colonialisme portugais et les mouvements de libération de l'Angola, de la Guinée-Bissau, du Cap-Vert, du Mozambique. Pour le Portugal, et oui, tout ça nous ramène très loin, pour le Portugal, cette guerre se révéla particulièrement coûteuse financièrement et politiquement. Et oui, le Portugal souhaitait garder ses colonies et il y avait pourtant ces mouvements de libération. Et ces combats d'arrière-garde ne mènent à rien pour le Portugal, sinon à un gouffre budgétaire, un service militaire de 4 ans, une misère sociale, une dictature politique. Le pays est comme bloqué. Hugo Paletta expose le processus révolutionnaire jusqu'à sa normalisation politique, entre guillemets, et l'adoption de la Constitution du 25 avril 1976. Les titres des chapitres nous invitent à la réflexion. Comme je l'ai dit précédemment, y avait-il une voie portugaise vers le socialisme? Quel contrôle ouvrier et quel pouvoir? Quelle réalité des luttes urbaines? Et en mémoire et en miroir, quid de la réforme agraire? Et puis, une question de fond. Quelle alliance entre les militaires et le peuple? Des questions qui, entre nous, peuvent se retrouver dans d'autres révolutions, et je pense évidemment à l'Espagne de 36. Comme à l'accoutumée, dans un pays qui a connu la dictature pendant une aussi longue période, la réaction, la contre-révolution ne sont jamais loin. Voilà, c'est l'Espagne. Et puis même certains phénomènes en France. Le chapitre « À l'école de la lutte » ouvre des pistes et invite à l'analyse. Même si le lecteur ne partage pas tous les propos, c'est l'objet de cette rubrique pour ouvrir le débat, pour engager le débat, il peut constater que le souvenir de la révolution des œillets apparaît encore vivace dans le pays, mais elle demeure un héritage sans mode d'emploi et suspendu comme en attente d'héritier. C'est la vie, en tout cas, d'Hugo Paletta. Je rappelle le titre de son livre, « Découvrir la révolution des œillets, Portugal, 1974-1975 », publié aux éditions sociales en 2024. Et pour faire une transition tranquille, nous allons écouter l'ami Moustaki sur le Portugal. Il avait fait une belle chanson, Fred.
Oh muse, ma complice, petite sœur d'exil, tu as les cicatrices d'un 21 avril. Mais ne sois pas sévère pour ceux qui t'ont déçu de n'avoir rien pu faire ou de n'avoir jamais su. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. On crucifie l'Espagne, on torture au Chili, la guerre du Vietnam continue dans l'oubli. Aucun aux coins du monde, des frères ennemis s'expliquent par les bombes, par la fureur et le bruit. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. Pour tous les camarades pourchassés dans les villes, enfermés dans les stades, déportés dans les îles. Ô muse, ma compagne, ne vois-tu rien venir? Je vois comme une flamme qui éclaire l'avenir. à ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal. Dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. Au mousse de mes fades, au mine maille gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas não sei tão ingrata, não esquece quem te amou. Em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Que de bouche à oreille s'envole ta chanson. Car enfin le soleil réchauffe les pétales de mille fleurs vermeilles en avril au Portugal. Et cette fleur nouvelle qui fleurit au Portugal, c'est peut-être la fin d'un empire colonial. Et cette fleur nouvelle qui fleurit au Portugal, c'est peut-être la fin d'un empire colonial.
Et cette nous aimons parler aussi dans cette émission de peinture, d'exposition et de catalogue. Alors, c'est Agnès qui est notre spécialiste et qui devait nous présenter un petit livre consacré à Gustave Caillebotte en prélude de l'exposition qui lui est consacrée depuis le 8 octobre 2024 jusqu'au 19 janvier 2025 au musée d'Orsay. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette exposition qui nous promet de belles œuvres, évidemment. Le livre que qu'Agnès voulait nous présenter et qu'elle ne peut, bon, malheureusement elle ne peut pas être présente, s'intitule Ouvrier, artisan du beau selon Caillebotte, et il est écrit par Dominique Ozel, publié aux éditions Atelier Henri Dougier, le roman d'un chef-d'œuvre. Oh, nous reconnaissons dès la couverture l'ouverture des deux rabats, le tableau des raboteurs de parquet selon Caillebotte, peint en 1875. Ce tableau représente trois ouvriers, torse nu, à genoux, avec comme seul élément de sécurité des genouillères pour éviter de se blesser trop, mais évidemment les genoux, et qui s'affairent sur leur tâche. Ils sont en train de racler le parquet abîmé, ils sont en train de... Alors l'un avec un rabot, bah oui, c'est très dur de raboter parce qu'il faut en plus que ce soit impeccable. Les deux autres sont avec un racloir, et ce dans une palette de couleurs monochrome, des bruns, des gris, avec des copeaux de bois jonchant le sol, un peu plus clair, une bouteille de vin près d'eux pour étancher la soif, dans une lumière diffusée par une grande fenêtre colorée à la manière des impressionnistes. Qui est Dominique Ozel? Eh bien, Dominique Ozel est auteur de nombreux livres sur l'histoire et l'esthétique du cinéma. Il a été professeur de cinéma et conservateur de la Cinémathèque de Toulouse. Il met en lumière dans ce roman, à la manière de séquences de cinéma, l'intérêt porté par ce tableau et d'autres dans le cadre du 150e anniversaire de l'impressionnisme et des 130 ans du décès de Gustave Caillebotte. Ozel nous explique ainsi l'attachement qu'avait Caillebotte à laisser une empreinte de ses métiers, de leur pénibilité, tout comme Millet à son époque avec le tableau des glaneuses. Et il met à l'honneur les ouvriers, il met à l'honneur le travail et la difficulté du travail. Pour qui a essayé de raboter des planches, garantit que raboter un parquet, c'est pas évident. C'est ainsi que l'artisan qui réalisa ce plancher le remercia avec émotion pour avoir réalisé ce tableau. Je cite « On juge les ouvriers sans les connaître. Or, vous avez cherché à en savoir plus sur nous pour peindre le réel, comme vous disiez. » Ah oui, Caillebotte, il y a du réel. Bon, on connaît tous d'autres tableaux, mais on en reparlera une autre fois. Et puis, nous rencontrons Louise, qui rend visite à Degas et vient admirer pour la première fois le tableau qu'il a réalisé de son travail de repasseuse pour la famille Caillebotte. Degas avait peint son portrait avec une autre jeune femme repassant le linge de la maison, une bouteille de vin pour se désaltérer et se trouver du courage pour continuer le travail. Je cite « Nous n'existons pas, nous, femmes du peuple, ou si peu. Mais quand un artiste nous croise, on se sent enfin considéré. » Et les tableaux des impressionnistes et qui ont reproduit le travail des hommes et des femmes, et particulièrement des femmes, sont évidemment à mettre dans la notion de progrès. Évidemment, c'est pas tout à fait le même style que Jérôme et compagnie. Les remerciements de Louise touchent beaucoup Degas, qui saluera à l'occasion le travail de Caillebotte, qui, comme il le souligne, met en œuvre ses petits et durs métiers. Caillebotte ne participera pas à la première exposition des impressionnistes. Il les connaissait et achetait bon nombre de leurs toiles. On en a répertorié plus de 70, sans parler des aides financières qu'il prodiguait. Caillebotte, en effet, était issu d'une famille bourgeoise de 4 enfants et vécut toute son existence dans un grand confort financier. Il avait plusieurs passions, la peinture. Il réalisera 475 tableaux en 20 ans. Sa modernité repose essentiellement sur son sens du cadrage, quasi photographique, souligne Dominique Ozel. Mais il s'intéressait aussi à la botanique, à l'horticulture, avait une grande culture dans ce domaine, comme le souligne Charlotte Berthier, sa compagne. Enfin, et vous vous rappelez certainement de ses tableaux consacrés au jardin. Bon. Enfin, il sera initié à la voile par Sisley et sera du reste vainqueur de plusieurs titres nationaux. C'était l'époque où l'on pouvait faire de la voile sur la Seine face à Argenteuil. Son tableau des raboteurs de parquet sera refusé au salon officiel de 1875 et ne sera présenté que l'année d'après avec cette autre toile. La peinture de Caillebotte, comme celle de tous les impressionnistes de l'époque, fut très contestée et rabrouée, qualifiée par Zola d'anti-artistique. Vous savez, Zola, qu'on présente toujours comme étant un progressiste, etc. Bon, d'abord, on se rappelle de ses écrits sur la Commune, qui sont absolument odieux. Là-dessus, je renvoie au livre sur les écrivains contre la Commune de Paul Liski, paru à la découverte, mais là, il est pas mal quand même dans le genre, jugement sur lequel il reviendra quand même l'année suivante devant la présentation de nouvelles œuvres. Des raboteurs sur parquet, Caillebotte disait, je cite, « Ces raboteurs sont pour moi des héros, représentés comme des figures antiques. C'est exactement ce qui m'a été parfois reproché. » Pourquoi la présentation des ouvriers en plein travail serait-elle perçue comme un sujet vulgaire? Bah, c'est le problème de la vulgarité. Le peuple est vulgaire, donc on ne représente pas le peuple. Les glaneuses, comme les raboteurs, constituent des acteurs majeurs du monde moderne. J'ai toujours fait mienne cette phrase de Pierre-Joseph Proudhon. L'art ne s'est occupé jusqu'à présent que de ses dieux, des héros et des saints. Il est temps qu'il s'occupe des simples mortels. Agnès nous invite donc à lire ce roman. Indéniablement, c'est un roman, mais qui nous présente la vie de ce peintre et ses valeurs. Je rappelle le titre, « Ouvrier, artisan du beau selon Caillebotte », écrit par Dominique Ozel, aux éditions Atelier Henri Dougier. le roman d'un chef-d'œuvre. Passons au rôle. Je voudrais simplement aborder ce texte, parce que j'en ai déjà parlé sur le site du Monde Libertaire. Je voudrais aborder le rôle des intellectuels et la capacité qu'ont ou pas les intellectuels de se mobiliser dans des moments sensibles pour défendre, et là je cite Thomas Mann, pour défendre les valeurs humaines. C'est un livre qui s'intitule « Appel aux Allemands », donc de Thomas Mann, « Appel aux Allemands », message radiodiffusé 1940-1945, qui a été publié aux éditions Les Belles Lettres en 2024. Donc vous pourrez trouver des éléments plus complets sur l'article sur le monde libertaire, mais je voudrais souligner quelques points. Je cite « Ce que, de loin, j'avais à vous dire, d'autres bouches jusqu'ici vous l'ont transmis. Aujourd'hui, vous entendez ma propre voix. C'est la voix d'un ami, une voix allemande, la voix d'une Allemagne qui se montra et montrera de nouveau au monde avec un nouveau visage, un autre visage que le masque hideux de Méduse dont l'hitlérisme l'a revêtu. C'est une voix qui vous avertit. » Et cette voix, donc, c'est Thomas Mann. Il fuit le nazisme en 1933. Il est déchu par ce régime de sa nationalité. Lui, le prix Nobel de littérature, il se réfugie aux États-Unis et il s'adresse à son peuple pour l'avertir des dangers dus au nazisme. Il affirme « L'anti-humanisme de l'époque me prouvait clairement que je n'avais jamais fait ou voulu faire autre chose que défendre les valeurs humaines. Je ne ferai jamais rien d'autre. » Et il va régulièrement, en 56 messages radiophoniques, scander et défendre ses valeurs humaines. Avec constance, tant dans le ton que sur le fond, il affiche son anti-nazisme. Et il souligne qu'il faut avoir confiance dans l'Allemagne, il faut avoir de la constance pour défendre les valeurs humaines, les apports de l'Allemagne, Dürer, Bach, Schiller, Goethe, à la culture mondiale, alors que les victoires s'enchaînent telles, et les victoires de l'Allemagne bien sûr, telles que des pas dans un marais sans fin. Mais dit-il, Hitler n'est qu'une supercherie, il n'est pas un révolutionnaire, mais seulement un brigand, un être scélérat possédé du démon jusqu'à la dernière extrémité. Goebbels ? Une gueule béante vomissant le mensonge. Edrich, ce valet assassin qu'en Allemagne même, on appelait le bourreau. Et en 1942, sa chronique, on est quand même au moment le plus sinistre, en 1942, le contenu essentiel de la révolution nazie est la bestialité. Je trouve que c'est d'une actualité totale. On dénonce la déportation de centaines de jeunes juifs vers les camps, pour que l'on expérimente sur eux des gaz toxiques. Donc on savait en 1942, c'est pas la peine de faire croire que « Ah ben on savait pas ». En 1942, oui, on est au plus profond du cauchemar nazi. Et quand il, dans sa chronique du 22 juillet 1942, il annonce « Oui, le fascisme italien est mort. Depuis longtemps, aucun chien n'acceptait plus de lui un seul morceau de pain. » Et puis, le 14 janvier 1945, il écrit « L'horreur, la honte et le repentir, voilà ce qui est en premier lieu nécessaire. » Et le 10 mai 1945, il écrit « Grande est l'heure du retour de l'Allemagne à ce qui est humain, la liberté de l'esprit. » Je ferai un clin d'œil à un autre grand écrivain qu'on aime beaucoup dans Au fil des pages, qui s'est exprimé sur les ondes de la BBC à la même époque, défendant les mêmes valeurs à peu près, George Orwell. Deux livres, Thomas Mann, Appel aux Allemands, message radiodiffusé 1940-1945, aux belles lettres, et George Orwell, Chronique du temps de la guerre 1941-1943, aussi aux belles lettres, mais en 2021. Frédéric, je propose que, puisque nous avons parlé de Bach, que nous écoutions l'air sur la corde de sol de Jean-Sébastien Bach. Depuis le début de l'émission, nous mentionnons rapidement les titres des ouvrages commentés. Vous retrouverez leurs références, comme à l'ordinaire, sur le blog du groupe Commune de Paris, de la Fédération anarchiste. Et tous les livres que nous citons, vous pouvez les commander auprès de Publico. Je suis encore Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Je suis encore passé, comme d'habitude, cet après-midi à la librairie et j'ai pu relever pas mal de bouquins qu'on avait cités et qui sont en vente. Vous pouvez aussi retrouver certains commentaires sur notre page Facebook. Sur la chronique des idées et des luttes sur le site du Monde Libertaire. Deuxième temps de l'émission, rencontre avec Anne Steiner. Bonjour Anne Steiner.
Bonjour.
Vous avez été, enfin, tu as été maître de conférence à l'université de Nanterre de 90 à 2020.
Oui, pendant 30 ans.
Auteur d'une thèse sur la fraction armée rouge et depuis plus de 20 ans, tu travailles sur le mouvement anarchiste et les luttes sociales à la Belle Époque. Et dans ce cadre-là, tu avais publié un livre qu'on avait commenté, présenté à Publico, avec le groupe Commune de Paris, Les En Dehors.
Oui, consacré aux anarchistes individualistes.
Et puis aujourd'hui, nous allons parler d'une réédition augmentée, celle du livre Le Temps des Révoltes, initialement publié en 2015 aux éditions L'Échappée. Et là, on actualise. Alors, c'est une histoire en carte postale des luttes sociales à la Belle Époque. En 140 cartes postales. Pourquoi raconter les luttes sociales en carte postale. Les journaux ne suffisaient pas. Pourquoi à l'époque on faisait des cartes?
C'est un média, la carte postale de grève, que j'ai rencontré en travaillant sur un ouvrage précédent qui a été publié en 2013, qui s'appelait Le goût de l'émeute, où j'évoquais des émeutes, pas forcément liées à des grèves. Ça pouvait être lié notamment à des exécutions de jeunes hommes. Et en travaillant sur cet ouvrage, j'ai découvert la carte postale de grève, en fait, puisqu'un des événements, c'était la grève des boutonniers de Méru et l'autre, Draveil. Donc, je ne l'ai pas utilisé à ce moment dans cet ouvrage. Il doit y avoir une ou deux cartes comme illustration, mais j'ai eu envie de creuser un peu. Et c'est Éric Coulot, d'ailleurs, que certains connaissent, hein, qui est l'animateur du site éphéméride anarchiste, qui est lui-même un collectionneur de cartes, qui m'a un peu initié à cela. Et j'ai découvert, du coup, j'ai été explorer le fonds du Musée d'histoire sociale de Montreuil. Il y a un fonds Bossy. Bossy était un travailleur du livre, un ouvrier typographe qui avait passé beaucoup de temps à collectionner des cartes postales de grève dans les années 50-60. Donc, au moment où on en trouvait, évidemment, les événements étaient plus proches, encore beaucoup plus. On en trouvait certainement chez les bouquinistes. Et il a fait don de cette collection au musée de Montreuil. Donc j'étais assez impressionnée. Et j'ai eu l'idée de raconter les grèves de cette période, qui sont extrêmement nombreuses. Il y a entre 1000 et 1500 grèves par an de 1906 à l'entrée en guerre, à 1913, avec des conflits longs, violents.
Oui, durs. Hein.
Durs, très durs. Et voilà, presque, enfin, une grande partie de ces conflits a fait l'objet de séries de cartes postales. Alors, pourquoi les cartes postales plutôt que la photo de presse? Tout simplement parce que les journaux ne publiaient pas encore de photos. On voit apparaître les premières photos très, très mal tramées, enfin, c'est très laid et on voit rien du tout, en vérité. Et donc, il y avait le dessin de presse, assez extraordinaire. Oui. Il faudrait d'ailleurs un jour faire le temps des révoltes, une histoire des luttes sociales de cette période à travers le dessin de presse. Ça serait vraiment très bien. Enfin, là, mon projet, ça a été avec la carte postale. Alors, la carte postale, elle complète les textes, en effet, parce qu'elle donne à voir des éléments qui n'apparaissent pas forcément dans les récits qu'on a de ces luttes, dans les récits militants, mais les récits aussi de la presse nationale et régionale, ou celle des chroniqueurs de ces grèves, parce que on voit beaucoup mieux les acteurs et certains de ces acteurs, notamment les femmes et les enfants, car les enfants sont présents. On voit aussi très bien l'ampleur des violences, des saccages de cette époque. On peut en avoir une idée en lisant les textes, mais c'est autre chose vraiment de les voir.
Et puis, à la différence des photos pour la Commune de Paris, ce ne sont pas des reconstitutions, ce sont des c'est des photos quasiment au moment même, non?
Alors, il y a des photos prises sur le vif, il y en a d'autres, je pense, ça a été des reconstitutions, mais faites avec les acteurs très peu de temps après. Comme je connais bien certains. Alors, le récit, par exemple, de Fressenneville,
c'est
des grèves dans la serrurerie en Picardie.
En Picardie. Elle est peu connue, cette grève.
Elle est peu connue parce qu'elle n'a pas duré très longtemps, celle-ci. Et elle a été très, très violente, puisque les maisons des patrons étaient incendiées. Et ça, dans les premières heures de la grève. Donc, on a un cortège, par exemple, c'est page 55, on voit un cortège avec des femmes qui est un peu maigrichon, le cortège, et un drapeau, le drapeau, en fait, de la mairie, qui sert de drapeau rouge parce qu'on a caché le blanc, enroulé le blanc et le bleu. Et ça, cette scène, elle a eu lieu quelques heures après le déclenchement de la grève. Donc, c'est pas possible qu'un photographe soit trouvé là immédiatement. Même si, en effet, cette carte a été faite par un photographe local, puisqu'il y avait deux grandes... Enfin, il y avait plusieurs grands fabricants de cartes postales, les plus importants étant à Paris, avec 200 à 300 salariés dans chacune de ces usines de cartes postales. Et puis, il y avait des fabricants locaux, des libraires papetiers qui s'associaient à un photographe. Il y avait des photographes dans tous les villages. C'est le moment où il y a tout un essor de la photographie. On va se faire tirer le portrait une fois par an.
Oui, donc ça veut dire que s'il y a une grève à Bordeaux, c'est pas un éditeur parisien, mais c'est un éditeur
local. Il peut y avoir les deux. Il peut y avoir les deux. Là, en fait, cette grève, aucun éditeur parisien n'a envoyé de reporter parce qu'elle a été un peu une grève éclair. Elle a duré pas plus de deux semaines, même moins probablement. Je ne me rappelle plus. Je n'ai plus exactement le livre en tête. Tout a été terminé, oui, en 8-10 jours. Et là, je me dis que c'est pas possible, que le photographe, c'était très encombrant, le matériel photographique à l'époque. Il y avait un pied, un soufflet, ou c'est pas le téléphone portable non plus. Donc, il a peut-être demandé à ses ouvrières de rejouer la scène. Ça, c'est bien possible. Peut-être. Mais en fait, c'est fait quand même pendant la grève. Voilà.
Alors, il y avait un contexte social qui était très dur. Et pourtant, on parle de belle époque. Et pourquoi ce terme, belle époque ?
Ça, c'est un terme qui est né après la guerre. C'était par contraste avec les années de guerre.
Première.
Voilà. Oui, la première, bien sûr. Donc c'est là que le vocable s'est installé.
Et on a un contexte social qui est très dur. Et quelle est la vision des luttes qu'on a à la CGT ? Est-ce qu'on est dans la logique de la grève générale, chère à Pouget ?
Oui, bien sûr, parce que toutes ces luttes ont lieu... Bon, j'ai commencé par les grèves de Limoges en 1905, qui précèdent donc l'année 1906, laquelle année avait été fixée par la CGT comme point de départ de la grève générale pour la journée du 8 heures. Ça devait commencer le 1er mai 1906. Et en effet, l'année 1906, il y a eu 1500 grèves, un nombre terrible de grèves. Bah, c'est l'année d'ailleurs aussi de la grève de Fressenneville. Et c'est après le congrès d'Amiens, donc congrès de la CGT, qui fixe comme objectif cette grève générale comme horizon des luttes, et puis qui admet le sabotage comme moyen de lutte légitime.
Oui,
parce
Pouget.
Qu'on a une... Oui, c'est Pouget, mais pas que lui.
Mais
en fait,
lui,
il y a Yvetot, qui est
le
numéro 2 de la CGT et qui est anarchiste. En fait, la CGT de cette période est dominée par les anarchistes, oui. Parce que En 1895, la CGT naît de la fusion de plusieurs syndicats. Il y avait une myriade de syndicats qui s'unissent pour former la CGT. Et en 1902, la CGT fusionne avec la Fédération des Bourses du Travail, nettement libertaire d'esprit. Et du coup, Yvetot, qui était à la tête de la Fédération des Bourses du Travail après la mort de...
De Pouget ?
Non, pas Pouget. Oh là là, mais c'est pas possible.
Le Péloutier, bien sûr,
après la mort de Fernand Péloutier, qui d'ailleurs était pas si favorable que ça à la fusion avec la CGT, mais bon, il meurt, et la fusion se fait, et Yvetot, qui est à la tête de la Fédération des Bourses du Travail, devient du coup, de ce fait, numéro 2 de la CGT.
Et la propagande par la carte postale était-elle vraiment efficace ?
Alors, ce n'est pas du tout une entreprise de propagande.
C'est pas de la propre.
Absolument commerciale. C'est pas du tout des cartes militantes. Il n'y en a qu'une de cartes militantes dans tout le livre. C'est celle qui représente l'arrestation de Gabrielle Petit, une militante qui, lorsqu'elle est arrêtée, a demandé à un photographe de la prendre en photo, et les gendarmes ont accepté de poser en l'entourant.
Oui, ça, c'est assez étonnant d'avoir les gendarmes qui acceptent de poser.
D'accord. C'est un peu l'esprit de l'époque. C'est très violent, et puis en même temps, il peut y avoir ce genre de relation.
Aujourd'hui, on ne pourrait pas faire ce genre de choses, je ne crois pas.
Non, je ne crois pas. Et de fait, on chroniquait tous les événements, c'est-à-dire les fabricants de cartes postales représentaient des monuments, des cérémonies, des paysages, toutes sortes de choses, et tous les événements qui se produisaient. Ça peut être, par exemple, des faits divers même qui étaient représentés, des catastrophes naturelles. Les inondations de Paris ont donné lieu
à 1910, 1912.
Voilà, c'est ça. L'éruption du volcan de la Soufrière aux Antilles, il y a aussi beaucoup de cartes postales. Et là, une grève, eh bien, c'est un événement qui se produit parfois dans des localités où il ne se passe pas grand-chose. Et du coup, on en fait des cartes postales. Et c'est vendu dans les, chez les libraires papetiers. Et c'est ce qui m'a aussi pas mal surpris. Bon, je n'ai pas un corpus énorme, mais bon, j'ai quand même bien examiné 200 cartes. C'est très rare que le texte qui accompagne ces cartes, au dos de la carte ou sur la carte, parce qu'on écrivait encore parfois sur la carte, ait un rapport quelconque avec l'événement. Pas du tout.
D'accord. Et ce livre, comment est-il organisé? Parce que ce n'est pas une succession de grèves, il n'y a pas que ça. On a les lieux, mais on a d'autres éléments aussi. Qu'est-ce que tu mets en valeur?
Alors, bon, c'est fait selon un ordre chronologique. Voilà, je commence en 1905, je finis en 1911.
Donc c'est Limoges, je crois.
C'est Limoges. Il y a 11 chapitres. J'ai essayé de représenter à la fois toutes les régions de France. J'ai échoué à représenter toutes les régions, mais...
Enfin, déjà, pour trouver la Picardie, ce mouvement-là, c'était pas mal.
Il m'était assez cher. Oui. Et puis, j'ai essayé de diversifier les lieux et aussi les métiers. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on ne va pas trouver Fougère, parce qu'il y a déjà une grève de la chaussure, et je ne voulais pas en faire deux, par exemple. Donc, ça, c'est ce qui m'a guidée. Et puis, alors, évidemment, un autre critère qui était important, c'est qu'il fallait que des séries de cartes postales existent et soient disponibles. Parce que parfois, je sais que le corpus existe, mais c'est très difficile de le reconstituer. Bon, voilà. Donc, ça dépendait aussi de cela. Et à la fin de chaque chapitre, il y a un focus qui est une approche d'un thème. Alors, thème qui apparaît plus précisément dans le chapitre en question, mais qui est quand même transversal à tous les événements que je décris, et même à ceux que je ne décris pas. Donc, par exemple, après le chapitre consacré à Limoges, Noir printemps, où il est beaucoup question des femmes de la ouvrière de la porcelaine et de la chaussure, et grève qui s'est organisée d'abord autour de la demande de renvoi d'un contremaître, lequel était un harceleur, en fait. Utilisait ce qu'on appelait à l'époque le droit de jambage.
Le droit de jambage.
Et donc, j'ai fait un focus sur les femmes au travail. Voilà. Après, on a les mineurs. Alors, certains de ces focus, ce sont des portraits. Juste après Limoges, il y a la grève des mineurs de Courrières, dans le Nord. Il fallait évidemment que les mineurs soient représentés. Et là, j'ai fait un portrait de Benoît Broutchou, qui a été un peu l'âme de ce mouvement, qui avait fondé un jeune syndicat en opposition au vieux syndicat, qui d'ailleurs n'était pas dans la CGT, le syndicat principal des mineurs, et qui était très réformiste.
Avec son responsable qui a été député au Sénat, enfin qui a été parlementaire en tout cas.
Ils étaient tous les deux députés, mais alors c'était des députés quand même qui avaient travaillé à la mine à l'âge de 10 ans.
Oui, quand même.
C'est des gens...
Des vrais, quoi.
Et très respectables, oui. Et ça fait rêver d'ailleurs une période où on pouvait avoir au Parlement des hommes qui avaient travaillé à l'âge de 10 ans et
qui savaient s'exprimer pour dire autre chose que
bien
des bêtises.
Et très bien écrire aussi. Et voilà. Mais on leur en voulait un peu d'être des... Enfin, en quelque sorte des parvenus, ce qu'ils n'étaient pas vraiment. Mais en tout cas, ils avaient une approche réformiste. Évidemment, ils étaient députés. Alors, Fressenneville, c'est une grève dans la serrurerie. Où on a typiquement...
Alors, Fressenneville, c'est la grève de Picardie.
Voilà.
Et alors, c'est terrible parce que c'est un métier qui va disparaître.
La fabrication des serrures, non.
Non, mais de façon, comment, par petite, chez eux.
Oui, mais il y avait des...
Il y a une évolution, là.
Il y a une évolution, mais dans toutes les industries, oui. Voilà. Donc là, on passe effectivement de l'atelier avec beaucoup de travail à domicile, du petit atelier à la grande usine, parce qu'on commence à utiliser l'électricité ou la force motrice, et il faut regrouper les ouvriers. Et il y a des réussites fulgurantes d'anciens ouvriers devenus patrons et qui sont très arrogants, l'arrogance des parvenus.
Et ceux dont les maisons ont été
voilà, détruites. Voilà, qui cristallisent beaucoup de haine. Et donc, là, c'est typique un peu de l'industrie en France à cette époque, c'est-à-dire elle est implantée beaucoup en milieu rural. Oui. La Fressenville, en fait, les usines sont réparties dans plusieurs villages du Vimeux, on appelle cette
région. Oui,
le Vimeux, voilà. C'est des habitants ont un mode de vie, ce sont des ouvriers et des ouvrières, mais très proches de la ruralité, beaucoup sont enfants de paysans, il y a peu de syndicats, et justement là, la grève, elle va se déclencher après le renvoi d'un ouvrier qui vient de créer un syndicat.
Ça ressemble un peu à une jacquerie.
Oui, c'est une
vérité. On saccage d'ailleurs avec rage.
Rage et saccage, j'ai appelé mon focus. Saccage, en effet. Et c'était, on retrouve ce mode opératoire dans beaucoup de grèves, dans beaucoup des grèves que je chronique, mais dans celle-ci, c'est très spectaculaire parce que. Ouais, il y avait justement pas de syndicat, mais alors il y avait des gens d'Amiens qui passaient, des colporteurs, porteurs d'idées anarchistes, et il y avait des idées qui circulaient, bien sûr, et à un moment, donc en 1906, au moment où la tension monte un peu avec cet appel de la CGT à commencer une grève générale le 1er mai, un syndicat se forme, et les patrons l'apprennent et renvoient un des ouvriers qui est à l'origine de la création de ce syndicat.
Fauteur de troubles.
Voilà, alors il y a une altercation dans la cour, le ton monte. Les ouvrières, parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui travaillent dans cette industrie-là, se mettent à la fenêtre et se mettent tout à coup à crier « Vive la grève !» descendent, dévalent les escaliers... forment un cortège, passent devant la mairie, arrachent le drapeau, laissant flotter la seule partie rouge. Et elles passent devant la grande villa, on les appelait des châteaux, par moquerie aussi. Ces villas quand même très imposantes. Mmh. Et là, elles voient le patron prendre sa voiture et partir vers Amiens, probablement pour aller chercher des forces de l'ordre,
enfin,
demander, c'est ça. Bon, d'abord les gendarmes, et puis après, on monte d'un cran, et elle brûle la maison, enfin, il s'engouffre dans la maison, et ça, c'est un scénario que je retrouve aussi près de Saint-Étienne, et dans d'autres lieux, à Méru aussi,
Est-ce qu'on pourrait dire, là, justement, sur Méru, ça aussi, c'est un mouvement qui est peu connu, Méru dans l'Oise, que fabrique-t-on à Méru ?
Alors, c'est plus connu, Méru.
Oui, c'est quand même plus connu.
Et donc là, on commence, je voulais dire, c'est toujours le même scénario. On rentre dans la maison, on sort tous les objets évocateurs de luxe. Le piano, malheureusement, pour les mélomanes, c'est comme ça. Le piano, le billard, des tableaux, des rideaux, on fracasse la vaisselle.
Et puis c'est vraiment le côté jacquerie.
Voilà,
quoi.
Et on fait un grand bûcher. Et puis après, c'est la maison elle-même qui est saccagée. Donc à Méru, pour revenir à votre question, on fabriquait des boutons de nacre.
Oui.
Voilà, c'est en 1909, cette grève. Les conditions de travail, c'est pareil, c'est un peu le même scénario, c'est-à-dire on passe des tout petits ateliers à des concentrations plus grandes, ce qui veut dire toute une discipline d'usine, parce que c'est des unités de 200, c'est pas jusqu'à 200, 300 ouvriers. Donc il y a des contremaîtres, les contremaîtres qui disposent d'une autorité et d'un certain... d'arbitraire, il y a des règlements, des amendes, il faut respecter des horaires, on ne peut plus sortir et revenir comme faisaient, par exemple, les femmes de Méru, elles pouvaient aller allaiter un nourrisson, puis revenir à l'usine, puisque, en plus, le travail était aux pièces, donc, voilà, C'était pareil à Fressenville. Et tout à coup, ça devient extrêmement draconien. Il y a l'horloge qui symbolise cette mise au pas. Parce que dans les petits ateliers, il n'y avait pas d'horloge. Là, il y a une horloge, on le voit là.
Oui, oui, qui domine.
Qui domine vraiment.
Qui domine les ouvriers.
Comme dans les gares.
Oui, oui, comme dans les gares. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et alors, on va à Rans-l'Étape, on va à Draveil, Vigneux. Mais on est aussi, on a aussi des grèves et des mouvements de révolte dans le. Des luttes paysannes et notamment des viticulteurs. Alors évidemment, oui. Il y a les viticulteurs du Midi avec
révolte,
ce pauvre Marcelin Albert qui est manipulé par Clémenceau, qui est redoutable quand même, Clémenceau, qui lui donne de l'argent en disant « Tenez ». Et puis qui dit « C'est un pauvre homme voilà, ».
En fait, il lui a donné l'argent de son train, enfin du billet de train. Pour, c'est rien. Oui. Et après, devant, il donne une... Parce que Marcelin Albert, il y a eu des morts, beaucoup de morts.
Oui.
6-7 morts. Mort dans le Midi, ça a été vraiment un carnage. C'était un mouvement très très puissant, hein, puisque ce qui a été crescendo, c'est-à-dire chaque dimanche, il faisait une manifestation. Il y avait toujours, dans une des villes du Midi viticole, il y avait toujours plus de monde. Mmh. 100 000 à la première, et puis on passe à 200 000, 500 000, 1 million, pour finir à 1 million.
On finira à 1 million ?
Oui. Il y a Montpellier, il y a Nîmes, Narbonne, etc. Mmh. Et donc, on envoie la troupe, 33 000 hommes, hein, c'est pas rien.
33 000 hommes.
C'est énorme. Et la troupe va tirer et faire des morts à Narbonne, notamment. Et il y aura cette célèbre mutinerie du 17e, du régiment 17e de ligne, avec la chanson de Montéus, Brave Piu Piu. Et donc... Marcelin Albert monte à Paris, c'était le leader un peu de ce mouvement. Mmh. C'était lui-même un viticulteur et puis il faisait du théâtre amateur aussi. À un moment, il a une petite troupe de théâtre, dont probablement certaines éloquences. C'est un homme charismatique en tout cas. Et Marcelin Albert demande une entrevue à Clémenceau, monte à Paris, et Clémenceau le reçoit, le culpabilise en disant, voilà, tous ces morts, c'est quand même votre faute, etc. Marcelin Albert se sent pas bien, en fait, c'est culpabilisé. Et puis, il lui donne de l'argent pour rentrer en disant, vous allez appeler au calme, etc. Et tout de suite après, il reçoit des journalistes et dit, oui, c'est un brave homme, enfin, je lui ai donné un peu d'argent, il est reparti. Et là, ça discrédite complètement Marcelin Albert.
C'est terrible.
Qui n'était pas du tout un corrompu, qui était vraiment un homme très simple.
Et... Alors, il y a les viticulteurs du Midi, et puis alors, un mouvement que je ne connaissais pas du tout, c'est en Champagne.
Ah oui, et c'est très, très spectaculaire. Donc, en Champagne, les viticulteurs s'étaient appauvris, parce qu'au départ, en fait, ils cultivaient du vin, et ils cultivaient du raisin, pardon, comme tout viticulteur. Ils faisaient eux-mêmes leur vin,
oui.
Et ils le vendaient aux négociants de Champagne, qui le vinifiait de sorte voilà, que ça devienne ce liquide gazeux qu'on connaît bien. Lequel liquide gazeux prenait vraiment en valeur. Donc, ils s'enrichissaient. Les viticulteurs s'enrichissaient aussi, puisqu'ils vendaient leur vin à un certain prix. Et puis, les négociants ont proposé, sont équipés de pressoirs très modernes, etc. Et leur ont proposé de leur acheter leur récolte. Et la plupart ont accepté. Au début, c'était plutôt bien. On vendait le raisin, on n'avait plus à faire le vin, on gagnait pareil. Et puis, progressivement, les négociants ont baissé le prix d'achat du raisin. Et là, ils ne pouvaient plus négocier, parce que le raisin pourrit en 3 jours.
Oui, ça va très vite.
Ouais. Et voilà. Tandis que le vin, ils pouvaient le garder et faire monter les prix. Et ils se sont terriblement appauvris pendant ces années. Et on peut voir pour chaque village de Champagne la décrue de population. Si ça vous intéresse, hein.
Oui.
Si vous allez sur Wikipédia, au nom des localités, il y a les recensements. On peut avoir accès sur la plupart du temps au recensement remontant jusqu'au début des recensements. Et on observe un net fléchissement de la population à partir de 1900. même un petit peu avant, mais surtout à partir de 1900, c'est-à-dire les villages perdent des habitants parce que c'est la misère absolue. Mmh. Et donc, ils vont mener une révolte très, très, très violente. Alors, c'est lié aussi à des conflits sur les appellations, hein, mmh. entre
l'Aude.
L'Aude et la Champagne.
Voilà, où on dit toujours que le Champagne de l'Aude, c'est du, il a des bulles carrées pour dire qu'il est beaucoup moins bon que celui de
ce qu'ils veulent, c'est protéger leur, leur appellation, parce qu'ils se rendent compte que les négociants achètent du vin d'autres régions, d'ailleurs. Voilà.
Ça se fait plus, hein, maintenant, bien sûr, comme chacun sait. Hein.
Et donc, la révolte va être vraiment... d'ailleurs, ça s'appelle Révolution en Champagne, une série de cartes postales. Mm-hmm. Là, c'est un éditeur parisien qui les a couvertes. Et toutes les maisons négociant, une grande partie, vont être totalement mises à sac, brûlées, incendiées, les bouteilles fracassées et les vignobles incendiés.
Oui, on brûle la vigne. Ouais, il y a une photo, cartes, là, une carte, là, on
carte
brûle
le
la
montre.
Vigne.
Hein, oui.
Oui, oui, oui. Là, ça, j'étais extrêmement surpris. Et puis, autre temps, puisque le temps passe, là, en bonne compagnie, c'est, tu abordes aussi la question du métayage dans le Bourbonnais.
Oui.
Et je pense à La vie d'un simple d'Émile Guillaumin, bien sûr.
Oui, hein, oui.
Un livre à lire, je dis ça à nos auditeurs et auditrices.
Oui, parce qu'il y a eu un mouvement dans le Bourbonnais. Bon, là, je n'ai pas de disposition
de
carte postale. Oui, oui, bien sûr.
Pour que, bon, le monde paysan n'est pas forcément...
Non.
Mais là, oui. Hein, c'est, d'ailleurs, ça sera un des derniers... département communiste, André Lajoigny aura été élu de ce coin-là, ouais, tout à fait.
Hein. Il y a eu aussi les résignés des Landes, et ça avait l'air très intéressant leur mouvement, mais il y a trois cartes.
Ouais, donc,
c'était pas possible de leur consacrer un chapitre. Ça a été aussi une révolte assez dure, parce qu'ils étaient très mal payés alors que la résine prenait de la valeur. Ils vivaient dans des cahutes dans la forêt des Landes. C'était un travail familial, donc il y avait le couple et les enfants. Les enfants devaient aller à l'école, et d'ailleurs, ils ont fait une grève de l'école, parce que beaucoup de ces forêts appartenaient à l'État. Donc, c'était une manière de frapper l'État.
Ah oui, oui, en effet, oui, c'était une manière d'attaquer l'État pour le pousser à agir. Ouais.
Et à élever des tarifs de la résine.
Et donc là, bon, il y a d'autres endroits, bien évidemment. Il y a aussi... le mouvement des boulonniers en 1910. Alors, qu'est-ce qui se passe, les boulonniers? C'est les fabricants de boulons?
C'est les fabricants de boulons,
voilà.
C'est ce qu'on appelle la petite métallurgie.
Oui.
Et c'est dans la région de Saint-Étienne. Donc là, c'est plus précisément au Chambon-Faugerolles, qui était... c'était une terre quand même avec des bonnes traditions de lutte. Il y avait des mines, il y avait la Ricamari, pas loin, où il y avait eu des morts en 1869. Et donc, les boulonniers se mettent en grève aussi par rapport à, un licenciement, oui, un licenciement arbitraire, toujours à cause de ces fameux contremaîtres.
C'est souvent à partir de, je ne vais pas dire un point de détail, mais surtout que le terme, l'expression maintenant est malheureuse, mais c'est bon, un licenciement, c'est toujours dur, mais
c'est la petite étincelle. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Voilà,
oui.
Bah,
parce
l'étincelle
que ce licenciement, il attaque le syndicat, en fait.
Ouais.
Très souvent, on licencie des ouvriers ou ouvrières syndiquées. Mm-hmm. Ça peut être aussi, dans le cas de Limoges, ça peut être des ouvrières qui sont brimées parce qu'elles refusent d'accorder leur faveur au contremaître.
Là aussi, oui, comme à Limoges.
Mais c'est, voilà, c'est lié à des conflits avec cette hiérarchie du travail.
Un mot peut-être sur le SSR d'Almereda.
Ah. Alors,
à Draveil.
Oui, le service de sûreté révolutionnaire. Oui, alors on a parlé de Clémenceau. En effet, d'ailleurs, le focus qui suit Draveil lui est consacré. Avec là, j'ai voulu non pas mettre une carte postale, mais ce formidable
dessin de Delannoy,
d'Aristide,
qui change Clémenceau en tête de mort.
Voilà,
quoi, hein,
voilà.
Et ce qui est fou, c'est de se dire que Clémenceau était un ami de Louise Michel.
Oui, enfin, ça, c'est un peu reconstruit par Ragon.
Oui, mais enfin bon.
Il y a eu des échanges, mais c'était avant la.
Non, mais je ne veux pas dire que c'était le petit ami, etc. Ça va. Ça, c'est
non, mais
ridicule,
même pas mais, l'amitié, vraiment.
Bon, mais Clémenceau, il a.
Très réactionnaire.
Oui, en fait, très réactionnaire.
Oui, bon, hein. il c'est le parti radical, évidemment, oui. Au moment de la Commune de Paris, c'est plutôt à gauche de l'échiquier.
Oui, mais quand il y a. Où étaient les autres?
Mais quand la République est vraiment acquise. C'est-à-dire en 1869, bah, les radicaux ne sont pas particulièrement... D'ailleurs, là, ils sont au pouvoir à ce moment-là. Il n'y a aucune réforme sociale.
Ah, oui, parce qu'il est ministre
voilà,
de l'Intérieur.
Et ministre de l'Intérieur est très rapidement président du Conseil, en 1906. Oui. Et en fait, Clémenceau veut que tout passe par le Parlement. Donc, il déteste la CGT anarcho, enfin, syndicaliste révolutionnaire. Et il va lui mener une guerre... féroce, et il va reculer devant rien. On a vu la répression, il y a quand même 16 morts en 3 ans. 3 ans de Clémenceau, 16 morts, et des centaines et des centaines de blessés. Oui, parce qu'évidemment, on ne peut pas mesurer la répression seulement au nombre de morts.
Non,
l'épisode des Gilets jaunes vient bien de nous montrer. C'est-à-dire, il y a des gens là, éborgnés, mutilés par les sabres, puis ce sont les dragons, c'est l'armée qui est utilisée comme force de répression, notamment les régiments de dragons armés de sabres, qui mutilent à qui mieux
oui,
mieux.
Et qui ne travaillent pas qu'avec le plat du sabre.
Hein. Non, du tout,
parce que c'était, bon, c'était les ouvriers, il fallait massacrer les ouvriers, c'était pas le diable. Rapidement.
Et juste, donc, Clémenceau va utiliser des provocateurs et des indicateurs. Alors bon, ça c'est...
Et Almereda
c'est de bonne... Alors Almereda, justement, je ne sais pas si les auditeurs voient bien qui est Almereda, qui était lié à la guerre sociale, qui était anarchiste d'abord, et puis qui est devenu plutôt socialiste révolutionnaire, et avant de mourir tragiquement en 1917 en prison, bon... j'ai écrit une biographie qui lui est consacrée, voilà. Et lui, il avait mis...
Qui est publié chez L'Échappée.
À L'Échappée. Voilà. Tout ce que j'ai écrit est publié à L'Échappée, parce que tout se passe bien à L'Échappée. Et que j'ai aucune raison de publier ailleurs. Et donc, il va démasquer... Il y a un homme qui joue un rôle assez trouble à Draveil, de provocateur, et il y a des doutes sur lui, et Almereda, avec d'autres, décide de créer un service de sûreté révolutionnaire pour démasquer justement provocateurs et délateurs. Et ils vont enlever Métivier, c'est le nom de cet homme, et lui faire reconnaître. Il a été directement. Il a eu une entrevue avec Clémenceau, c'est quand même extraordinaire, quand même le ministre de l'Intérieur. Ça aurait pu passer par des échelons plus bas. Mais ça, c'est aussi la période. Et il fait une conférence, il convoque une conférence de presse où Métivier reconnaît tous ses torts. Et puis alors, ils vont passer ensuite en procès pour avoir séquestré évidemment un homme. Et ils vont être acquittés par le jury qui comme va de... même les féliciter parce que.
Donc on voit que quand on tourne les pages, vous savez, au fil des pages, c'est normal dans cette émission. On sait tout un parcours sur le mouvement ouvrier avec des cartes, mais Anne nous donne des explications. Elle ne se contente pas de dire regardez, voilà ce que c'était. On peut tirer des enseignements et je trouve ça vraiment très intéressant. Anne, est-ce qu'il y a d'autres projets de livres?
Oh, j'ai plusieurs fers au feu, mais rien de.
Bon, donc on ne peut pas l'annoncer tout de suite.
D'engager vraiment. Oui, bon, j'écris là, dans la revue Brasero de.
Oui, alors Brasero va sortir. Voilà. Brasero, prochain numéro
sort la semaine prochaine.
Donc une revue toujours aux éditions L'Échappée, enfin toujours à Quilombo. Donc on peut. Et puis on peut la trouver, évidemment. Chez Publico. Je vous rappelle le titre du livre dont nous avons parlé aujourd'hui avec Anne, Le temps des révoltes, une histoire en carte postale des luttes sociales à la Belle Époque, aux éditions L'Échappée, en 2024. Et je crois, Anne, que vous allez présenter ce livre samedi à Publico, le 12, samedi 12, à Publico. Donc j'invite nos auditrices et nos auditeurs à regarder sur le site du Monde Libertaire pour voir l'heure exacte. Mais enfin, n'hésitez pas à venir assister à cette présentation. Ça sera tout à fait complémentaire de ce que nous avons eu l'occasion de présenter. Merci Anne.
Merci de m'avoir invitée.
Nous allons écouter le drapeau rouge. On en a parlé.
Les révoltés du Moyen-Âge l'ont arboré sur maintes et fois, emblème éclatant du courage, toujours il fit pâlir les rois.
Le voilà, regardez, quand il vient d'entendre, il bouge, c'est l'envie au combat préparé.
Et sur les barricades, par les héros de février, il devint pour les camarades le drapeau du peuple ouvrier. Commune, il flotte encore à la tête des bataillons, et chaque barricade arbore ses longs plis taillés en haillons. L'étendard du prolétaire, des opprimés soit l'éclaireur, à tous les peuples de la terre, porte la paix et le bonheur.
Troisième temps de l'émission, les romans de la vie. Dominique, je crois que tu es en ligne.
Oui, bonsoir Francis.
Bonsoir. Alors, un texte consacré à Paul Auster, consacré à la situation aux États-Unis et la douceur américaine.
Oui. Alors, le livre s'appelle Pays de sang, une histoire de la violence par arme à feu aux États-Unis, publié chez Actes Sud en 2021 et traduit par Anne-Laure Tissu.
Alors, on peut rappeler qui est Auster?
Oui, Auster. Donc il est décédé aussi cette année. Décidément, je ne présente que des auteurs qui meurent cette année.
Oui, en fait, ce n'est pas les romans de la vie, c'est la rubrique nécro,
oui,
hein, ton truc.
Oui, c'est les romans de la mort, oui. Bon. Alors, il est né, Paul Benjamin Auster est né en 1947 et mort le 30 avril 2024 à Brooklyn. Mm-hmm. Donc c'est un romancier, scénariste et réalisateur américain. Il a beaucoup écrit sur la ville de New York, notamment le quartier de Brooklyn où il vivait. Il connaît bien la France, il a traduit des poètes français, il a écrit des poèmes avant de se tourner vers les romans, la trilogie de new-yorkaise, je ne sais pas si tu as lu. Alors, c'est pas très gay, hein, mais ça décrit bien la vie à New York. Alors lui-même a perdu un fils qui était photographe d'overdose. Et il était marié avec une autre romancière que j'aime beaucoup, qui s'appelle Siri Utzvest. Et peut-être que je présenterai un de ses livres prochainement. Alors, ce livre, c'est plutôt un essai ou un documentaire hein, sur les armes à feu. Il y a 101 pages de photos sur 208 pages, prises par un photographe professionnel, Spencer Ostrander, qui est aussi son gendre. Alors, on y voit une trentaine de sites après une tuerie de masse. Alors, je rappelle que la tuerie de masse, c'est quand il y a plus de 4 morts.
Oui.
Alors, ces clichés, il n'y a rien de sanglant. Hein. C'est des lieux vides, tristes, avec des fleurs. On y voit des écoles, des églises, des supermarchés, des hôtels, des discothèques, avec le nombre de victimes qui, donc, aussi de 4 à 60. Il y a même un cimetière dans lequel il y a eu une tuerie de masse. Hein.
Oui.
Bon. Et donc ces photos sont pour l'auteur des pierres tombales de notre chagrin collectif. Alors on connaît bien sûr la plus célèbre, la tuerie de Compiègne, mais le livre voire n'aborde pas que les tueries de masse, hein. Il y a aussi les tueries individuelles.
Alors Paul Auster est marqué par une histoire personnelle ?
Oui, oui. Alors, sa grand-mère a abattu son grand-père sous les yeux de son oncle de 9 ans, donc le frère de son père, parce qu'il l'avait quitté. Alors, étrangement, elle a été acquittée sous prétexte qu'elle avait été prise de folie. Parce que souvent, les juges exonèrent les gens qui prennent les armes. Je vais en parler un peu plus loin. Et donc, dans toute la famille, ils ont toujours caché la vérité à leurs enfants. Ce n'est que par le plus grand des hasards qu'il a appris par une cousine la vérité. Donc, c'est quand même...
Il y a une citation, d'ailleurs, qui est intéressante.
Oui. Alors, il dit, en raison de qui était mon père et de qui j'étais devenue alors, je ne lui dis jamais un mot à ce sujet tout le temps que dura sa vie, soit près de 9 ans après ce jour-là. Je savais ce qu'il savait, mais il ne sut jamais que je savais. Quelles qu'étaient ses motivations, il m'avait protégée par son silence dans mon jeune âge, et à présent, j'avais l'intention de le protéger dans sa vieillesse.
Très beau texte.
Oui.
Alors, il y a des chiffres, quand même, qui sont effrayants.
Oui. Alors, 40 000 morts par an. Alors la moitié sont des suicides, donc là des meurtres individuels, mais il y a aussi les règlements de compte, les tueries de masse, les morts accidentelles par balle, les opérations de police. Les Américains, écrit Paul Auster, ont 25 fois plus de chances de se faire tirer dessus que leurs homologues dans d'autres pays riches. 100 Américains tués chaque jour par balle.
Chaque jour, 100.
Oui, oui.
Bon.
Il y a actuellement plus d'armes à feu que d'habitants aux États-Unis, 393 millions d'armes. Mmh. À eux seuls, les habitants des USA possèdent près de la moitié des armes à feu détenues par des civils dans le monde. Et 1,5 million de vies américaines ont été détruites par balles depuis 1968, soit plus de morts que la somme totale des décès causés par les guerres qu'a connu le pays depuis 1775.
Ouais.
Donc ça fait réfléchir. Hein.
Alors il essaye de comprendre, de nous faire comprendre cette utilisation massive des armes.
Oui, alors en première partie, il fait un historique détaillé de l'histoire de son pays, il le relie à la violence. Donc il dit que le pays s'est constitué dans la violence avec l'arrivée des premiers colons, l'esclavagisme, les guerres contre les Indiens, la guerre de sécession, la prohibition, le racisme anti-noir, les Black Panthers qui d'ailleurs ont revendiqué aussi le droit de porter une arme et de se défendre face à la police, c'est dans leur statut, hein. La création de la National Rifle Association, la NRA. Et bien sûr, il pointe le discours attisant la violence comme celui de Trump. Mmh. Il dénonce le deuxième amendement de la Constitution, rédigé en 1787, hein, objet de tant d'interprétations. Une milice, alors cet amendement dit, une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé.
Bien.
Donc, posséder une arme est un droit fondamental.
Bon. Et alors, évidemment, en plus, les armes à feu sont régulièrement glorifiées dans le cinéma et ailleurs.
Oui, et dans les jeux vidéo, là, plus récemment.
Bon.
Et dans la deuxième partie, il insiste sur le fossé philosophique qui sépare les pour et les contre, hein, ceux pour qui c'est un dogme fondamental dans la société américaine, et ceux qui souhaitent y mettre fin. Hein, ceux qui pensent que le problème vient des armes à feu, et ceux qui pensent que ce sont les personnes qui les manient mal. Hein. C'est d'ailleurs Trump hein, qui dit ça.
Oui.
Et alors l'émotion est forte sur le moment après des tueries de masse, surtout dans les écoles, mais aucune solution n'est trouvée. Mmh. Et alors la plupart des tueries sont le fait. Mais non, ils ont le profil. Hein. C'est souvent des jeunes hommes ordinaires, isolés socialement et affectivement. Et la possession d'armes leur donne une impression de puissance.
Il compare ça, je crois, avec les armes, des accidents automobiles.
Oui, alors il dit que pour l'automobile, les États-Unis, et d'ailleurs comme dans beaucoup de pays au monde, on a réussi à faire baisser les accidents de voiture. Or, l'automobile était un autre symbole des États-Unis avec les armes. Et donc, il y a eu des améliorations, le permis, les ceintures, la diminution de la vitesse. Et il comprend pas que pour les armes, aucune décision proportionnée a été prise.
Bon. Et, oui. Il y a des solutions ? Enfin, en tout cas, non. Lui, il en alors, propose lui, ou pas ?
Non, aucune concrète. Alors, il est plutôt en colère et désabusé. Alors, il reste un défenseur des libertés. Alors, bien sûr, il parle de régulation de ce droit, davantage de contrôle, de réflexion. Mais pour lui, si on fait de la prohibition des armes, ça ne servirait à rien. Parce qu'il dit quand il y a eu la prohibition de l'alcool, l'alcoolisme a augmenté.
Oui, tout à fait. Et donc, ça sera... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas grand-chose ? Enfin, oui,
ben
ça
non,
sera...
alors oui, mmh. il dit si on interdit, on aura le grand banditisme et un nouvel Al Capone.
Et puis, quand même, à noter, parce qu'on attaque Trump, et c'est pas cette antenne qu'on va le défendre, mais oui. Même du côté des démocrates, on ne peut oui. pas dire qu'on soit anti-arme à feu.
Non, Kamala Harris est favorable au droit de porter une arme et de se défendre quand on est attaqué individuellement. Mmh. Alors, bien sûr, pas quand elle est pas sur les tueries de masse, là, elle veut faire quelque chose, mais sur les meurtres individuels, elle dit qu'on a le droit d'avoir une arme, et son vice-président, enfin pressenti, est membre de la NRA.
Oui, alors, donc, et lui, je crois qu'il est du centre des États-Unis, hein, je crois que c'est ça, hein, donc les États...
Et d'un milieu très, très rural, tout
à fait. Bon, ben, voilà. Dis donc, un livre, en tout cas, qui est d'actualité, c'est un roman, non, c'est un documentaire.
Non, c'est plutôt un documentaire. Il y a, avec beaucoup de photos.
Bon, et on rappelle le titre.
Donc, ça s'appelle « Histoire de la violence et des armes à feu aux États-Unis chez Actes Sud ».
Voilà, de Paul Auster, Actes Sud, en 2021. Prochain livre ?
Oui, alors ça sera pas non plus très joyeux, puisque c'est le livre de Kamel Daoud, « Houri », sur la guerre civile en Algérie.
Oui, tu m'as d'ailleurs averti qu'on allait avoir plusieurs commentaires de livres, pas particulièrement joyeux, mais comme nous allons, enfin, je pense que l'actualité aussi nous prête à réfléchir et ce qui se passe aux États-Unis et puis ce qui se passe en Algérie, etc. C'est à mon avis tout à fait intéressant.
Eh ben, écoute, j'essaierai d'intercaler peut-être quand même un livre plus agréable à lire.
Tu en auras un autre?
Oui, peut-être, oui.
Ah,
oui.
D'accord. Bon,
je laisse
bien.
Le suspense.
Ah, mystère. Bon, eh bien, écoute, merci, puis à bientôt. Allez,
au revoir.
Bonsoir. Frédéric va nous présenter dans notre rubrique « Un moment d'histoire » un livre de Macno. Les mémoires et les écrits 1917-1932, sorti chez Ivrea il y a quelque temps. Frédéric, qu'en est-il de ce livre ?
Eh bien, je prends le micro et je dis bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs. Alors, une petite annonce que j'aurais dû faire en début. Le ciné de la commune du groupe Commune de Paris de la Fédération anarchiste vous propose un troisième volet d'un épisode, troisième épisode d'un autre futur intitulé « Il n'y a pas de fou ». Alors, cela relate une période critique de la Révolution espagnole. En effet, l'utopie libertaire doit affronter la violence fasciste, mais aussi en interne de la République et son conservatisme, voire la terreur stalinienne. En mai 1937, à cet égard, sera une période critique pour le mouvement anarchiste. Quant à 1939, ce sera le temps de la défaite des fosses communes, de la retirada et des camps d'internement. Puis vint le temps du maquis, de la résistance en France et l'engagement pour certains dans les FFI. Alors, ce documentaire sera visible la semaine prochaine, le 16 octobre à la librairie Publico à partir de 20h, entrée libre. Bien sûr, venez nombreuses et nombreux, lorsque il pleuvra peut-être, et il y aura peut-être, possibilité de voir quelque chose de plus qu'intéressant. Alors en effet, Macno, mémoire et écrit. Alors cette semaine, je vous propose une autobiographie et un recueil d'écrits. Nestor Makhno, écrit 1917-1932. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Makhno notait ce qu'il notait dans son petit journal, mais le journal a été confisqué par des autorités et il a perdu, et donc c'est, disons, a posteriori, sur ses mémoires, que se fait cette autobiographie. C'est un bel ouvrage, dense, traduit du russe et présenté par Alexandre Skirda. Bien que né en Ukraine, Makhno utilisait plus facilement le russe que l'ukrainien. Une autobiographie bien écrite et riche en enseignements historiques, politiques et personnels. On entre facilement dans le récit de la vie de Makhno, un style simple nous y aide. Makhno nous parle de son enfance, de son adolescence, de ses séjours en prison. Prison qu'il a connue d'ailleurs bien jeune. Il va commencer par le biais de la prison, où il va commencer progressivement à réfléchir à son engagement politique. 1917 est une année importante pour Makhno, non seulement parce qu'il est libéré de prison grâce à la révolution de 1917 en Russie, mais aussi c'est la grande opportunité pour lui de commencer le combat politique. C'est aussi en 1917 que Makhno retourne à Gouliaï, Polier, ville de sa région natale, et où commence, dans le monde paysan, la mise en place de la collectivisation des terres et des moyens de production. Oui, mais une collectivisation, mais bien loin d'une gestion étatique, mais plutôt une autogestion libertaire. Cette autobiographie n'est pas autocentrée. Makhno cite et relate les faits de compagnes et de compagnons de lutte, et aussi de personnalités politiques. Ses rencontres, aussi notamment avec Kropotkine, Archinov, et sa surprenante rencontre et sa conversation avec Lénine. Et je ne fais que vous dévoiler que bien peu, car ce livre est très riche. Les chapitres sont courts, nombreux, puis il y a des écrits politiques dans une seconde partie du livre, des écrits qui permettent de mieux connaître la pensée politique de Makhno. Pour ma part, je connaissais Makhno et la Makhnovchina plus dans ses faits de combat et ses victoires, et aussi ses défaites contre les Rouges, contre les Blancs. Et j'ignorais ses combats contre les Austro-Hongrois lors de l'occupation de l'Ukraine, suite à l'armistice de Brest-Litovsk en 1918. Il y a aussi la grande histoire que nous relate Makhno, mais aussi la petite histoire, comme par exemple d'où lui vient le surnom de Batko, ce qu'est aussi une Tachanka. Puis, déjà à l'époque, les nationalismes se confrontent. Certains Russes appellent l'Ukraine la Russie du Sud. C'est aussi une région du monde où aujourd'hui, malheureusement, les mêmes nationalismes se déchaînent en apportant la mort. Pour conclure, cet ouvrage est une réédition, restera forcément, moi, dans ma bibliothèque, comme source historique de Makhno et aussi d'une histoire politique de l'Ukraine et celle de la Révolution où les libertaires agirent, ne l'oublions pas. Je ne peux que vous conseiller ce livre et sa lecture, et surtout de ne pas passer à côté de ce livre. Alors je répète encore une fois les références, Nestor Makhno, Mémoire écrite, 1917-1932, édition Ivrea 2010. Je vous rappelle, comme le disait si bien Francis, ce livre est disponible à Publico. Si vous n'êtes pas dans la région parisienne, vous pouvez toujours le commander par le biais ou soit du site ou en vous envoyant un petit mail. Je repasse le micro à Francis.
Merci Frédéric. Je voudrais rapidement vous parler d'un livre que je vais en développer le commentaire sur le site du Monde Libertaire dans la chronique des idées et des luttes. Il s'agit de texte de Lucie Parson et le livre s'appelle « Je m'appelle Révolution ». Ah, Lucie Parson, c'est quelqu'un de connu. Elle fait partie de ces militantes anarchistes aux États-Unis qui doivent se battre pour mobiliser les travailleurs et défendre les enfants, les femmes contre la toute puissance des chefs d'industrie. Et c'est dur. Et Francis Dupuy-Déry rassemble dans cet ouvrage, sous le titre « Écrits et paroles d'une éternelle agitatrice », des articles, des discours de cette femme de conviction, de courage, de ténacité. Je cite « Je suis anarchiste des pieds à la tête », affirme-t-elle dans une interview à La Presse en un journal qui s'appelle La Presse en 1886. Au fil des pages, vous retrouverez des accents dignes de Louise Michel, à laquelle elle rend hommage, d'Emma Goldman, de Voltairine de Clare, et c'est justice de mettre en valeur les écrits d'autres militantes que les plus emblématiques des États-Unis. Et puis aussi, je vous la présente rapidement, là, elle épouse un certain Albert Parson. Alors là, ça vous dit aussi quelque chose, parce que malheureusement, il fera partie des victimes de la justice américaine. En effet, le drame de Haymarket Square en 1886, un rassemblement ouvrier pacifique exige la journée de 8 heures. Elle se termine par l'explosion d'une bombe, des coups de feu, une répression sauvage de la police. Nous savons aujourd'hui que s'agissait d'une provocation policière. Les autorités se déchaînent contre les anarchistes. Il faut les abattre. 7 d'entre eux sont arrêtés et Parson se livre. Comme 3 autres, il sera condamné à mort et pendu. Et tout le sens du combat de Lucie allie mémoire de son mari, mais aussi celle des martyrs et des luttes sociales. Je cite, « Les gens souffrent, les hommes sont au chômage, les femmes crèvent de faim, les enfants sont pieds nus. Toute sa vie durant, elle se battra et elle dira, « Vous, meurtriers hideux, je vous hurle au visage. » Il y a du Louise Michel dans cette apostrophe. Lisez ce livre, c'est tout à fait intéressant. Elle participe aussi à la création de la Working Woman Union. Elle participe aussi à l'activité des EWW, le syndicat radical, dans ses actions pour dénoncer un système aliénant. Et je trouve vraiment que ces textes sont très porteurs, notamment les principes de l'anarchisme, « Je m'appelle Révolution » et « Pourquoi les anarchistes croient-ils que l'émancipation ne passe pas par les élections ?» On est en pleine actualité. Et je reprends la conclusion de Francis Dupuy-Déry, « Lucie Parson est un exemple flamboyant de cette lignée de femmes qui ont consacré leur vie à la cause anarchiste et à la défense de la classe ouvrière et des pauvres. » Lucie Parson, Je m'appelle Révolution, aux éditions Luxe, en 2024. Et je demande à Fred de passer la chanson « Joel » de Paul Robeson. C'est cette chanson qu'elle a demandé qui soit diffusée lors de son enterrement. Frédéric.
I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, says he. I never died, says he. In Salt Lake City, Joe says I, him standing by my bed. They framed you on a murder charge, says Joe, but I'm dead. Says Joe, but I'm dead. The copper bosses killed you, Joe. They shot you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe, I didn't die, says Joe, I didn't die. And standing there as big as life and smiling with his eyes, says Joe, what they can never kill, went on to organize, went on to organize. From San Diego up to Maine, in every mine and mill, where workers strike and organize, it's there you'll find your hill. It's there you'll
find you here. I dreamed I saw Joe here last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, says he. I never died, says he. I never died, says he.
Voilà, chers amis, des livres que nous souhaitions vous présenter en ce mois d'octobre. C'est fini pour aujourd'hui dans Au fil des pages, rassurez-vous. On se retrouve le mercredi 23 octobre 2024. Nous parlerons notamment d'un livre consacré à l'histoire de l'imprimerie, publié aux éditions La Fabrique, et nous recevrons par téléphone l'auteur de ce livre. D'ici là, bonne lecture, et l'équipe d'Au fil des pages sur Radio Libertaire vous souhaite ni Dieu ni maître. Et nous avons choisi un nouveau générique de fin d'émission, Nothing But the Blues de John Verity. Laissons la place après à nos amis de Femmes Libres. Au revoir, à bientôt, au plaisir de partager.
Ce miroir du rien me fascine, et j'y cherche en vain leur reflet. L'homme nouveau, s'il existe, cache sous sa peau un vieillard. Et sur cette plage étrangère, je construis des châteaux de sable et les regarde disparaître, s'anéantir, vague après vague. Le miroir d'eau s'est refermé. Et j'y cherche en vain mon reflet.
Femmes libres.
Qui se libèrent.
Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
C'est Femmes Libres sur Radio Libertaire.
Et vous, terres africaines.
Bonsoir et bienvenue sur Radio Libertaire dans l'émission Femmes Libres. C'est la 34e émission de cette année 2024, mais on rappelle que l'émission a commencé en mai 1986. Émission féministe et anarchiste pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes Libres. Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et à la régie, eh bien, c'est Sylvie. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Hélène, qui est à l'animation.
Voilà, l'émission c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. Pour nous suivre, émission trait d'union femmeslibres.blogspot.com. On peut réécouter les émissions, avoir le programme, mais on peut aussi nous suivre sur Facebook et Miss Cloud. Le programme de ce soir, le procès de Mazan. On ne fait pas les féminicides ce soir. On va parler du procès de Mazan. Ensuite, la chronique Accord à cri. Anna Tijoux, l'activiste du hip-hop, avec deux interviews. L'interview d'Anna Tijoux et de Thibaut Roland, vous le saurez tout à l'heure. J'ai oublié son titre, il doit être le directeur du Nancy Jazz Pulsation. Voilà, et Mariama Keita, troisième temps, militante de la Fédération anarchiste dans le groupe Louise Michel, et elle va nous parler de tout ce qu'elle fait depuis bien longtemps, 1996 je crois.
Tout à fait.
Voilà, pour les sans-papiers et spécifiquement pour les femmes et les enfants. Et quatrième temps, information, communiqué, rendez-vous. On commence avec le procès de Mazan. Caroline Darian.